time will come up when the winds will stop and the breeze will cease.
Cold beneath my skin and they're trembling with rage.
Oxford town,
I'll make you wild.
Everybody's got the head bowed down. Sun don't shine.
Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de ces projets de recherche sur la dictée, l'oralité et les dispositifs d'enregistrement de la voix, le laboratoire sur les récits du soi mobile, affilié au département de littérature et de langue du monde de l'Université de Montréal, présente Bob Dylan, De l'enchantement à la cruauté, un balado en 6 épisodes. C'est le caractère équivoque de la voix de Dylan qu'on tentera d'explorer, puisqu'elle nous apparaît à la fois inépuisable, comme le démontre le Never Ending Tour que le chanteur entreprend depuis 88, tout en étant à la fois une voix discontinue, toujours changeante. Il y a d'abord le grinchement nasillard mis en scène dans les premiers albums folk des années 60, puis le ton de crooner country à partir de Nashville Skyline en 69. Il y a la plongée dans le gospel, puis le thème qui devient encore plus rappeux à travers les années, pour finalement devenir une voix qui floute la frontière entre la récitation puis la chanson. Cette voix, on l'observe se transformer depuis près de 60 ans, à la fois par le passage du temps puis par les manipulations théâtrales du chanteur lui-même. Elle conserve pourtant toujours sa capacité d'évocation, d'envoûtement. Puis c'est pourquoi dans les premières semaines, nous allons ensemble l'observer de près, l'écouter avec attention. Mon nom est Thomas Filteau et aujourd'hui je suis accompagné de Simon Harel, professeur au département de littérature et de langue du monde, directeur du laboratoire sur les récits du soi mobile, puis initiateur de ce projet autour de Bob Dylan, avec qui on va se pencher en seconde partie d'émission, sur ce qui a pu mener à la naissance de notre balado, sur la façon dont l'œuvre de Dylan s'intègre à nos recherches sur l'oralité. Bonjour Simon.
Bonjour, bonjour Thomas.
On accueille également dans nos studios Danick Trottier, professeur de musicologie à l'UQAM, spécialiste du 20e siècle musical et auteur de l'essai « Le classique fait pop, pluralité musicale et décloisonnement des genres » qui est paru chez XYZ en 2021. Bonjour Danick Trottier.
Bonjour Thomas.
Merci beaucoup d'avoir accepté de vous joindre à nous pour entamer notre exploration de la voix de Dylan. Alors on va se pencher avec vous sur la figure de Dylan à ses débuts, pendant les années 60, au moment vraiment de la construction de sa persona de chanteur. L'arrivée de Dylan dans le monde de la musique s'inscrit de façon étonnamment conventionnelle, je dirais, avec un premier album en 62 qui est composé presque uniquement d'interprétations de chansons traditionnelles folk. Alors comment est-ce que la posture de Dylan à partir de là se transforme au cours des années 60, à la fois musicalement mais aussi socialement, pour devenir une figure contre-culturelle?
On a une figure qui se transforme à une rapidité incroyable. Quand on prend 62, ce fameux album éponyme, qui est un album de reprise, Dylan s'inscrit en ce moment-là dans le folk revival. Certains parlent plus de folk arrival, parce que dans le fond, c'est le folk qui arrive dans les grandes villes. Et ce qui est fascinant avec Dylan, c'est à quel point ce jeune homme-là, alors là, il faut le placer, il a quand même 20 ans en 61, donc et il est né en mai en 41, donc ça vous donne une idée. Donc en 61, il va avoir 20 ans après mai. Et donc, ce premier album-là, il a 21 ans. Et il reprend du répertoire très connu, folk. On va souvent dire à l'époque que c'est un jeune qui chante de la musique de vieux. C'est très péjoratif de présenter les choses comme ça, mais ça montre à quel point le folk était porté par des figures très connues, des figures qui étaient établies depuis des années, comme Pete Seeger. Et donc, ce jeune homme qui arrive à New York, qui vient en plus de la campagne, donc du Minnesota, du Duluth au Minnesota, donc arrive à New York et s'inscrit tranquillement dans la scène folk de Greenwich Village et finit par s'imposer et comme vous l'avez mentionné, très vite, il va devenir le porte-étendard d'un mouvement qu'on appelle le Protest Song, c'est-à-dire une chanson de protestation, une chanson qui porte un message. Mais dès le départ, il y a toujours une controverse dans la mesure où Dylan s'est jamais vu comme quelqu'un qui fait de la chanson engagée. Il s'est toujours vu comme quelqu'un qui écrit des textes avec une portée, avec un message, mais ce ne sont pas pour lui des chansons politiques comme pouvaient le faire d'autres avant lui, et entre autres Woody Guthrie. Alors là, c'est très intéressant de voir que très vite avec cet album et le prochain, surtout en 63 de Free Willing Bob Dylan, il devient le porte-étendard de la cause de l'époque, des protest songs, des chansons qui veulent changer les mentalités de l'époque. Et il y a des chansons comme Blowin' in the Wind, et là il a à peine 22-23 ans, qui vont l'inscrire parmi les grandes figures de l'époque.
Et puis si je me souviens bien, même Blowin' in the Wind, la première fois où il la chante, il l'introduit en disant que ce n'est pas une protest song.
Exactement. Et en plus, c'est Peter, Paul et Mary qui la font connaître en premier. Et là, il se rend compte que la chanson fonctionne et il se dit « Moi aussi, il faut que je capitalise sur ce succès-là. » Et là, il l'interprète et tu as tout à fait raison de le mentionner. Hein. Quand on écoute comme il faut la chanson, on voit que c'est quand même une portée générale. C'est très humaniste, mais ça ne pointe pas en direction d'une cause politique en particulier.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de l'affiliation entre Woody Guthrie puis Bob Dylan, parce qu'une de ses seules chansons qui sont des compositions personnelles dans son premier album, c'est une chanson qui est dédiée à Woody Guthrie.
Ça fait partie de Dylan, hein, de tous les mythes autour de Dylan, c'est-à-dire qu'il rencontre Woody Guthrie, il s'en revendique, et pour lui c'est un héritage important, mais ça ne veut pas dire qu'il incarne à son tour un second Woody Guthrie. Et c'est là toute la complexité d'un personnage comme Dylan. Il est très singulier en soi, Dylan, et très vite les sources d'inspiration qu'il prend, il va très vite les rejeter pour les assimiler. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est qu'il est constamment dans un avancement progressif de sa carrière artistique et de son son et de sa persona, justement, on parlait de persona tantôt. Donc, l'affiliation à Woody Guthrie, c'est un des grands mythes. C'est comme si on avait vu aux États-Unis une espèce de transmission d'un héritage d'un père de la chanson folklorique vers un plus jeune. Mais en réalité, comme tu viens de le préciser, il reprend une chanson et il va le mentionner. Et après ça, ça va devenir un des grands mythes de la chanson folk des années 60. Mais, je veux dire, entre le parcours qu'on voit de Dylan par la suite avec ses prochains albums, je veux dire, Woody Guthrie est rendu très loin, là.
Oui, tout à fait. Mais justement, il y a une espèce de switch qui se passe au milieu des années 60 avec toute la controverse autour du Going Electric.
Exactement.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé à ce moment-là?
Pour moi, ça, c'est fondamental. Je trouve que ça décrit tellement bien la personnalité de Dylan et toute la complexité du personnage. Alors, je l'ai dit, hein, il est jeune, il est prolifique. Il a vraiment... il est vraiment porté par une façon de concevoir l'art qui lui met en porte-à-faux avec la façon dont à l'époque les milieux musicaux s'établissent dans des idéaux un peu conservateurs, dans des idées de ce que devrait être la musique sur le long terme, alors que lui, d'un album à l'autre, il y a toujours une progression. Donc je vais juste rappeler un petit peu, on a dit son album éponyme en 62, on a The Free Willing Bob Dylan en 63, là c'est l'époque où il va toujours être avec Columbia, mais c'est l'époque où il travaille beaucoup avec John Hammond, père, ensuite John Hammond fils. Et là, dès qu'on passe à 64, on a deux albums. C'est quand même pas rien, parce qu'à l'époque, quand on signait, il fallait faire plusieurs albums, il fallait produire. Donc, il arrive avec The Time Is Gonna Change. Et là, tranquillement, c'est Tom Wilson qui arrive comme producteur avec lui, qui travaille avec lui. Après ça, il y a un autre album qui s'appelle Another Side of Bob Dylan. Là, on est toujours en 64 pour ces deux albums-là. Et là, la bombe en 65. Donc, Dylan se rend compte que certaines des chansons qu'il écrit sont reprises par des formations avec de la guitare électrique et que ça sonne pas mal bien. Puis là, il se dit, moi, j'ai toujours été fasciné par le rock'n'roll depuis que je suis jeune. J'ai grandi, le rock'n'roll me fascine. La musique pop me fascine aussi. Ce qu'on appelait à l'époque un peu pop rock. Et là, il part en studio avec un album qui va arriver en mars 1965 qui s'appelle Bringing It All Back Home. Donc ça, c'est un album fascinant. On a entre autres Mr. Tambourine Man, donc électrifié. Et après, la bombe, la même année, Highway 61 Revisited. Et juste le titre en soi est pour moi un manifeste de l'époque. Hein? La route 61, cette grande route-là aux États-Unis, dire qu'elle est revisitée, ben, c'est comme dire je m'inspire du blues rural, du blues plus aussi des villes, le blues urbain, et puis je fonde ça dans un rock, dans un folk, donc il y a tout ça. Et ensuite, après, en 66, Blonde on Blonde. Alors là, à ce moment-là, il y a aussi Bob Johnston qui est son producteur. Alors pourquoi je rappelle tout ça? Simplement pour dire qu'on voit le passage d'un musicien qu'on avait proclamé comme la figure de la nouvelle chanson de contestation, et là on arrive à un musicien qui est carrément le porte-étendard du folk rock. En 65, cette transition là avec les deux albums que j'ai nommés tantôt, on va dire que c'est le nouveau son, le nouveau folk rock. Et là, Dylan va être hué, conspué, parce que dans les scènes folkloriques de l'époque, il y a un idéal qui s'est implanté, c'est de parler pour la collectivité et de le faire à travers des instruments acoustiques. Donc, l'instrument acoustique est mis de l'avant. C'est quoi? C'est le banjo, le violon, évidemment l'harmonica, la guitare acoustique et la podorythmie. Et là, on passe, Dylan va passer justement à une électrification avec la guitare électrique, avec la basse, avec l'orgue de l'époque. Donc, ça donne un son vraiment beaucoup plus fort, beaucoup plus dur. Et un des gros moments du Going Electric, c'est en 65 quand il se présente au Newport Festival of Folk Music. Donc, il décide de jouer live, mais avec des instruments électrifiés. Donc, à l'époque, dans ce festival-là, on jouait live avec des instruments acoustiques puis des micros. Mais là, lui, il électrifie les instruments et là, le public qui est là commence à le huer. Et là, il y a une partie du public qui disent « Laissez-le faire, c'est excellent. » Puis d'autres qui disent « Non, non, non. » Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ces années 65, 66, 67, à chaque fois que Dylan fait un concert, il est hué par une partie du public qui n'accepte pas de voir son jeune messager, dans le fond, devenir le porte-étendard d'un nouveau genre qui est le folk rock. Alors, ça, pour moi, c'est fascinant à quel point Dylan incarne la figure de la controverse dans les années 60, mais de la controverse qui finit toujours par se résoudre par un acquis artistique, par une avancée dans la scène musicale. Et Dylan, dans le fond, il est prolifique, je l'ai dit tantôt, quand il est rendu à 26 ans, il a déjà 7 albums. En 67, sort un premier Greatest Hits. Hein, de ses meilleurs succès, c'est quand même pas rien, c'est énorme quand on regarde tous les textes. Et il laisse une des chansons cultes en 65 du folk rock, mais une des chansons cultes de toute l'histoire de la musique, Like a Rolling Stone, qui pour moi montre vraiment le travail qui est à la base même de ce changement. C'est que Dylan, dès le départ, quand il écrit ses chansons, il essaie pas de représenter une collectivité. Et oui, il porte des messages, comme dans Blowin' in the Wind, des messages plus humanistes, mais il commence déjà à écrire un peu au jeu. Et quand il fait la transition vers le folk rock, c'est vraiment un jeu très affirmé. On est vraiment dans une perception du monde avec un texte qui est parfois un peu plus abstrait, qui va dans plusieurs directions et qui renvoie souvent à nous. Hein? Did you, quand il pose ces questions-là, No Direction Home, Like a Rolling Stone, donc le stone, qu'est-ce qui est associé au fait d'être high, d'être gelé à l'époque et d'être en phase avec les drogues. Donc, c'est un personnage qui, si vous voulez, avance comme ça et va à l'encontre des idéaux qu'on attend de lui. Et ça, pour moi, le Going Electric est très, très, très caractéristique de ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Dylan déteste les étiquettes à l'époque. Il déteste les étiquettes. À chaque fois qu'on veut le dire porte-étendard du protest song, à chaque fois qu'on veut le dire porte-étendard du folk rock, il rejette. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ses entrevues avec les journalistes sont très tendues parce qu'il se fout, dans le fond, des journalistes. Il répond aux journalistes un peu n'importe quoi, et il les renvoie dans le fond à l'absurdité de leur propre question. Excusez.
Oui, tout à fait. Puis on le voit bien dans le documentaire que Penny Baker a fait
oui.
Sur la tournée de 65, particulièrement les scènes avec les journalistes. Il y en a 2-3, puis c'est vraiment magistral. Là, il retourne, puis on dirait presque que c'est Dylan lui-même qui pose des questions.
Exactement.
Aux journalistes qui arrivent. C'est vraiment des formes de retournement qui sont une forme de provocation aussi. Puis moi, c'est ce que je vois aussi dans le titre de l'album, Bring It All Back Home. Il y a quelque chose qui n'est pas un retour à la tradition.
Exactement. Ah oui, c'est des tirades, hein, carrément.
Puis dans la plupart de ces spectacles de 65-66, pendant sa tournée, il faisait la première moitié du spectacle en acoustique, puis la seconde moitié en électrique. Ce qui est aussi quelque chose d'extrêmement provocateur, le presque qui cherche à obtenir une réaction du public.
Précisément. Et en plus, il augmente le son. Quand les gens huent, ils demandent aux musiciens d'augmenter le volume du son, ce qui fait que ça devient cacophonique parfois. On a des prestations qui sont un peu cacophoniques. On n'entend plus la voix de Delune, alors que Delune, quand même, ses textes à l'époque restent très forts, hein, restent très représentatifs de ce qui se passe dans la société américaine. Donc, effectivement, c'est très juste ce que vous dites.
Dans le classique fait pop, vous avez travaillé sur les formes de décloisonnement des genres musicaux, notamment pour complexifier la distinction donc entre musique classique puis entre musique pop. Dans le cas de Dylan, puis de ce qu'on discutait par exemple par rapport au caractère amplifié ou électrique de ses concerts 65-66, est-ce que vous considérez qu'il y a une relation au folk comme genre qui relève de la transgression également, d'une forme de décloisonnement?
Ah oui, tout à fait. Il faut comprendre, à l'époque, on a de la difficulté aujourd'hui peut-être à voir à quel point le folk et le rock s'opposaient à l'époque. En fait, pour les gens qui appartenaient au sein de folk, tout ce qui était électrifié était mal vu parce que c'était une concession à l'industrie de la musique. C'était du populaire, c'était vendre son âme. Donc, il y a eu pendant longtemps, ça va changer plus dans les années 70, mais pendant longtemps, au sein des scènes folk, qu'on soit avec Phil Oakes, Joan Baez, ou évidemment Pete Seeger, il y avait l'idée qu'il fallait vraiment le plus possible incarner la musique telle qu'on en avait hérité et surtout sans électrification. Alors, Dylan, c'est une transgression qu'il fait là, quand il passe à l'électrification. Lui, il a compris où ça s'en allait. Et il faut dire aussi, il voyait vraiment ce qui se passait du côté de la Grande-Bretagne avec les Beatles. Il voyait aussi les Beach Boys aux États-Unis. Il sentait qu'on était dans l'air. Puis il a toujours aimé le blues. Donc, comme il aimait le blues, la transition allait de soi. Et je pense que c'est là où il y a eu une transgression. Et comme je l'explique dans mon ouvrage, les genres musicaux, les nouveaux genres musicaux ou ceux qui révolutionnent la musique sont souvent des rencontres qu'on n'avait pas vues au départ. Un peu comme le jazz et le rock quand ils vont se rencontrer avec Miles Davis et John McLaughlin avec Bitches Brew. Donc, à l'époque, on fait ce genre d'avancement progressif où on fait rencontrer les genres musicaux et ça donne lieu à un nouveau genre. Puis c'est exactement ce que Dylan fait. Et c'est pour ça peut-être que Dylan reste l'une des figures les plus impressionnantes au 20e siècle dans cette capacité de se mettre à dos son public, mais de se créer un nouveau public. Honnêtement, on a beau regarder toutes les grandes figures de l'époque, j'en vois pas énormément qui ont été aussi acharnés que Dylan à penser qu'ils allaient dans la bonne direction, puis que finalement, avec le recul, on se dit « Ah oui, c'était vraiment la bonne direction, franchement. »
Take a size, the lonesome organ grinder cries. The silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn. But it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you.
Dylan est souvent vu aussi, en tout cas certainement au début de sa carrière, comme un piètre guitariste, comme un joueur d'harmonica un peu bancal, comme un mauvais chanteur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord.
Oh, mon, on en a dit des choses sur Dylan et on va en dire encore. Je pense que c'est la beauté d'un personnage comme Dylan. D'ailleurs, si on le compare à d'autres personnages comme Lennon, comme Bowie ou d'autres, ce qui fait la force de Dylan, c'est que la controverse le suit toujours, même encore aujourd'hui, alors qu'il est dans les 80 ans. J'ai bien hâte de voir d'ailleurs le jour où il va mourir, comment on va l'encenser, quels vont être les discours autour de son héritage. Mais il faut vraiment faire attention. C'est parce qu'on a un jeune qui arrive à New York, comme je disais tantôt, il y a 20 ans. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on le sait, quand on est musicien, musicienne, on se forme pendant plusieurs années, donc c'est normal. Il débarque sur une scène où il est encore en pleine formation. Mais c'est ce qui fait la beauté, justement, c'est qu'il ose, il est audacieux, il n'a pas peur de la polémique. Donc, ça fait en sorte que effectivement, parfois au début, on a l'impression qu'il apprend certaines choses à la guitare. Mais il l'apprend très vite, il l'assimile très vite. La même chose pour l'harmonica. Et moi, quand on parle de sa voix, je suis toujours... comment je dirais... outré, c'est peut-être le mot, parce qu'on exagère beaucoup le fait que sa voix ne serait tellement rauque, le grain de la voix, hein, là, pour parler comme Bart, le grain de la voix serait trop caractéristique et tout ça, alors que moi je trouve que ça, quand, une fois qu'on a écouté beaucoup de Delune, je veux dire, ça passe très bien et c'est une voix, oui, très caractéristique, mais c'est ce qui a fait aussi la beauté, son charme au départ. Donc dans la scène folk, on avait des voix très mélodieuses. Quand on prend par exemple Judy Collins ou Joan Baez, ce sont des voix très mélodieuses, alors une voix qui ressemblait plus aux voix qu'on retrouve dans le blues, bien c'est ce qui faisait la force de Delune dès le départ, donc je pense qu'il faut mettre ça en contexte. Et ensuite, moi je pense qu'après 65, le fait que Delune serait un piètre musicien dans telle perspective de son jeu ou autre, ça tient plus la route. Après 65, ça tient absolument plus la route, et d'autant plus aussi qu'il s'entoure d'excellents musiciens. Ça, on a tendance à vraiment, vraiment l'oublier. Donc les musiciens qui l'accompagnent sont géniaux et ils vont avec lui faire en sorte que son son devient excellent. Je termine sur cette anecdote-là. D'ailleurs, vous allez voir que quand vous ouvrez les pochettes de disques de Delune, Delune joue pratiquement tous les instruments. Il veut montrer, et c'est pas vrai en fait, il veut juste montrer qu'il contrôle son son. Donc on le voit avec une bass, on le voit au piano, comme si Delune était multi-instrumentiste, là, comme si c'était le génie par excellence chez les musiciens. C'est pas vrai. Évidemment, il est excellent guitariste, chanteur et harmoniciste, mais ça montre qu'il s'est entouré vraiment de très bons musiciens. Et comme les autres, à partir de 65, ben, il investit le studio. Des albums comme Highway 61 Revisited, Blonde on Blonde, sont des albums qui ne sont pas produits longtemps en studio, mais le studio est vraiment investi comme un instrument. On travaille le studio pour donner un produit fini puis un produit qui va rester. C'est pour ça encore aujourd'hui que ce sont des albums cultes.
With your mercury mouth in the missionary times, and your eyes like smoke, and your prayers like rhymes, and your silver cross, and your voice like chimes. Oh, who do they think could bury you with your pockets well protected at last and your street carvision.
Je trouve ça intéressant que vous parliez un peu de Bart et de la question du grain de la voix, parce que moi aussi c'est quelque chose vraiment que j'ai réfléchi au cours de la semaine quand j'ai beaucoup écouté Delune. Puis Bart, dans son texte, distingue l'idée d'un phénochant, d'un chant qui relèverait soit d'un caractère mélodieux ou d'une transmission qui relève de la communication. Puis d'un autre côté, il y a le génochant, qui relève davantage d'une forme de diction, de ce qu'il appelle, bon, finalement, le grain de la voix. Puis, peut-être la raison pour laquelle je parlais d'un piètre technicien en parlant de Delune, c'est que finalement, il y a quelque chose d'autre, puis que ça semble pas vraiment être une opposition que de dire qu'il est un mauvais musicien, mais qu'il y a autre chose qui semble relever d'un caractère matériel ou presque affectif, d'une transmission corporelle, puis qui vient comme recouvrir presque même ses paroles ou le message qu'il peut transmettre dans ses chansons. Puis pour moi, ça va tout à fait dans la même direction que lui qui refuse, par exemple, le fait d'écrire des protest songs.
C'est très intéressant. Ça me fait penser aussi qu'on voit le même phénomène en chanson française. Quand on est, par exemple, avec Brassens, Brel ou Ferré, le fait que leur voix, souvent, porte justement un texte. Ce ne sont pas des voix toujours justes, mais ce sont des voix, justement, où le ressenti est très fort. Donc, je pense que ça rejoint ce que vous dites. Il y aurait certainement une thèse à faire là-dessus pour aller plus loin. Mais effectivement, il y a ça, c'est Delune. Et le texte, parfois, il est même pratiquement narré. Tantôt, avant l'entrevue, on parlait de Desolation Row. Desolation Row, pour moi, c'est un texte narré carrément. En fait, c'est pratiquement un manifeste du New York des années 60. Il dit qu'il l'a écrit alors qu'il se promenait en taxi dans les rues de New York, puis qu'il faisait juste décrire ce qu'il voyait. Mais il y a quelque chose de très littéraire là-dedans, dans la description, puis après ça, dans la façon dont il récite pratiquement cette chanson-là. Je dis réciter, puis je le fais à dessein, parce que je pense qu'il y a quelque chose de la voix qui ressemble pratiquement plus au récit, ou la récitation parfois, que la que la mélodie, qu'une voix mélodieuse, voilà.
They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Row.
On va maintenant se pâcher avec vous, Simon, sur la genèse de notre projet qui forme une espèce de constellation d'Hélène, dont l'une des étoiles serait donc notre balado aujourd'hui, dont une autre pourrait être par exemple votre cours que vous donnez cette session-ci autour de l'œuvre de Bob Dylan. Je serais curieux de savoir, premièrement, peut-être qu'est-ce qui a mené à ce choix de vous intéresser spécifiquement à Dylan, plutôt peut-être qu'à d'autres figures de chanteurs ou d'autres figures folk.
J'ai pas eu le choix. C'est-à-dire que c'est pour ça que je donne un cours en ce moment sur l'enchantement, c'est-à-dire que j'ai fait, je le dis sans fausse modestie, mais sans exagération, j'ai travaillé beaucoup en psychanalyse, j'ai fait une psychanalyse. Et je fais en ce moment ma pop-analyse. Ça fait 50 ans que j'écoute Dylan, même un petit peu plus. Donc c'est une œuvre que j'ai écoutée, que je réécoute et... Je vous entendais parler, puis bon, que ce soit Seger ou Paxton, ou en fait, je veux dire, toutes les sources de la musique populaire américaine, telles qu'elles sont incarnées dans le folk et dans le blues. En fait, le premier concert de Dylan à New York officiel, je crois qu'il fait la première partie de Johnny Hooker. Bon, en fait, bon, voilà. Bon. Donc, il y a vraiment une forme d'enchantement qui, chez moi, s'est inscrit dans mon adolescence. Et dans une réalité qui est celle de la célébrité de Dylan, je dirais même son aspect légendaire, c'est au-delà de la célébrité. Il a 81 ans aujourd'hui, il donnait hier un concert à Oslo. Bon, je veux dire, il tourne, là, il dit pas que c'est sa dernière tournée, mais c'est une tournée qui, semble-t-il, va durer 3 ans. Bon, quand même, c'est très difficile d'être sur la route comme ça. Il le fait depuis la fin des années 80 avec le Never Ending Tour. Donc, il y a chez moi quelque chose qui relève d'une forme d'enchantement dans la voix, discordante, grinçante, très belle aussi, souvent, toujours, à mon sens, et qui fait que ça a été pour moi une source de formation. Ça a été une source de formation émotionnelle, parce que l'adolescence est un moment de grand retournement, à la fois physiologique et existentiel. J'ai maintenant atteint un certain âge, bon, semble-t-il que je suis encore jeune, mais néanmoins, quand je dis que j'écoute Dylan depuis plus de 50 ans, je veux dire, c'est pas rien, là, je veux dire, je peux dire ça de certains écrivains qui m'ont accompagné jusqu'à ce jour, et le fait que je suis complètement accro, il n'y a pas d'autre mot, hein, pour aller voir le set list du concert de Dylan à Oslo, j'ai beau donner un cours comme prétexte, je le fais de toute manière. C'est que Dylan pose la question d'une forme, j'emploie le mot avec des guillemets, mais à peine d'envoûtement par la voix, et cette capacité qui est celle de Dylan de pouvoir, par le biais des personas, de pouvoir faire jouer de très nombreux registres de voix, parce que c'est un fantastique storyteller, c'est un raconteur, c'est un chanteur. Et très tôt, dans ma propre vie, il m'a en quelque sorte capté, plus que captivé, il m'a capté. Bon, évidemment, il y a aussi l'imaginaire états-unien de la route qui participe d'un imaginaire collectif pour le meilleur ou pour le pire, c'est-à-dire que cet imaginaire devient notre imaginaire. On est quand même, comme le chantait Charlebois, presque Amérique, on est tout à côté et complètement dedans. Donc c'est sûr que ça a joué dans ma formation, je dirais, littéraire, sérieusement, absolument. Et ça demeure jusqu'à ce jour. Oui, l'enchantement.
Justement, vous dites que ça a participé à votre formation littéraire. J'aimerais peut-être savoir qu'est-ce que ça signifie pour vous de se pencher sur des objets musicaux, davantage peut-être que textuels ou cinématographiques. Puis est-ce qu'il y a des pratiques peut-être à désapprendre?
Ben, je ne sais pas comment répondre. La question est très bonne. Je ne sais pas comment y répondre exactement, sauf à dire ceci. Et je ne voudrais pas donner l'impression qu'il y a une sorte de piste ou de fil directeur, parce que ce n'est pas comme ça que je vois les choses, mais néanmoins. Je me suis intéressé par la suite à l'oralité, aux différentes manifestations de l'oralité. Ça vient de la musique. Ça vient du blues. Moi, j'ai toujours été passionné par le blues. Ça vient par le folk aussi. Bon. C'est un élément qui a joué de manière très, très nette. Bon, que je me sois intéressé par la suite au point d'avoir écrit des livres et de faire une thèse et de l'enseigner, Antonin Artaud, qui est quand même un homme de théâtre, poète, pour qui l'essentiel se joue dans la diction et dans la profération et dans les glossolalies, ça dit quand même quelque chose de persistant quant à une influence. Que je sois passé par la psychanalyse pour des raisons personnelles, bien sûr, mais que ce soit la psychanalyse et ce que ça fait intervenir du travail de la voix et de la diction et de l'écoute de la voix humaine et des métamorphoses de la voix en thérapie, c'est quand même aussi quelque chose. Donc, je ne dis pas que tout se retrouve ainsi mis en boîte, mais c'est évident que Deslunes a joué un rôle très important. Quant à ces questions, je reviens à la dimension des glossolalies parce que j'enseignais tout à l'heure mon cours sur Deslunes et je leur disais, connaissez-vous Tony Bennett? Bon, un prof de littérature comparée qui parle de Tony Bennett, ils sont peut-être très habitués, peut-être que tous mes collègues font ça, je ne sais pas. Mais Tony Bennett a une réponse extraordinaire à quelqu'un qui lui pose une question, comment dire, disgracieuse. Est-ce que Deslunes sait chanter? Ou est-ce qu'il chante bien? Tony Bennett, très futé, lui dit, écoutez, il chante bien, mais c'est pas ça. C'est que, dans le fond, Deslunes est un maître du phrasé. Tout est dans le phrasé. C'est-à-dire qui peut être chanté, qui peut être un récitatif, hein, Desolation Lords, Rain Are Gonna Fall, mais c'est vraiment cette maîtrise du phrasé, l'allongement des voyelles. Je leur faisais écouter Just Like Tom's Blues et d'autres chansons de Highway 61. Donc, il y a une maîtrise absolument exceptionnelle du phrasé qui est par moments en discordance avec l'orchestration, qui joue avec les musiciens, on le sait, hein, vous en parliez tout à l'heure, des musiciens qui sont géniaux, mais qui en même temps sont constamment déstabilisés par Deslunes lui-même. C'est-à-dire qu'il peut leur faire répéter pendant 3 mois tel type de chanson de Dean Martin ou de tout ce qu'on peut imaginer. Et là, en spectacle, oups, ce n'est pas ce qui a été répété. Donc, c'est accrochez-vous. Et donc, il y a là un aspect qui le rapproche de Miles Davis, par exemple. Donc, je veux dire, c'est quelque chose d'assez unique.
Easter time too, and your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue. They got some hungry women there and they really make a mess out of you.
Il y a quelque chose de l'enchantement peut-être qu'on retrouve quand on donne des cours aussi. Une espèce de logorie où on ne sait plus du tout où on s'en va.
Ça, c'est évidemment, il faut faire attention. Mais il y a un emportement de la parole dans l'enseignement. Hein? Je veux dire, vous parliez de Barthes tout à l'heure et du grain de la voix. Et bien, Barthes a écrit de très beaux textes sur le séminaire. Ce que je veux dire par là, c'est que le séminaire, puis on ramène un peu à nos professions. Le séminaire, c'est un peu le studio. C'est là où on expérimente, justement. Et puis, vous mentionniez tout. Que Deslunes à la fois était un homme de studio, avec John Hammond notamment, avec Bob Johnston, et par la suite qui devient son propre producteur. En même temps, c'est querelle avec Daniel Lanois. Bon, en fait. Et en même temps, c'est un homme qui veut, comment dire, que la première prise soit la meilleure. Et donc, il y a le refus de l'overdubbing dans la plupart du temps. Donc, c'est sûr qu'il y a ce rapport à la voix. Mais bon, je suis un modeste artisan. Il est une légende.
J'aimerais intervenir juste sur un point que je trouve intéressant, c'est ce que vous dites, Simon, est très juste. J'ajouterais aussi que la façon dont Dylan tient la scène, c'est assez exceptionnel, hein? C'est-à-dire qu'on pourrait le comparer par le souffle, par l'énergie à certains autres musiciens, mais c'est comme un introspectif sur scène, hein? Oui. D'ailleurs, le public s'en est souvent plein de dire « Dylan ne communique pas avec nous assez ». Mais du côté du souffle, par contre, pour l'énergie de l'époque, je trouve qu'on peut faire des parallèles parfois avec James Brown. Là, je vais étonner tout le monde va se dire « Voyons, James Brown ». Mais James Brown, c'est quelqu'un qui a un souffle vocal énorme. Ses textes sont très longs, puis il reprend. Mais Dylan, bien que ça ne soit pas un musicien qui soit extravagant sur scène comme pouvait l'être James Brown, il reste que quand on a des chansons de 10 minutes, puis il faut les chanter, il faut avoir toute une voix, puis tout un souffle. Et ça, on a tendance à l'oublier. Donc ça fait partie aussi de son talent.
Ah oui, tout à fait. Moi, je me souviens de... J'ai pas vu 190 ou 350 concerts de Dylan, mais je me souviens d'un concert en 78 au Théâtre Saint-Denis. C'était sa période gospel, sa période évangélique. Et là, j'y vais avec quelques amis et tout le monde me dit « ça va être complètement loufoque, ça va être raté ». Et on est dans le Théâtre Saint-Denis, bon, je sais pas combien de places, mais bon, quand même. Et on a de très bonnes places et c'est un concert éblouissant. Je veux dire, sa voix porte, c'est un maître, il est littéralement porté par ce qu'il chante là. Et ce sont d'ailleurs souvent de très bons albums du point de vue de la performance vocale, hein. Il y a des choses extraordinaires, hein. Et je crois donc que c'est tout à fait juste, oui.
Au niveau de la réception musicale, mais à la toute fin de son discours de réception du prix Nobel, Dylan affirme aussi que les chansons sont vivantes en elles-mêmes, puis qu'elles se différencient du texte littéraire par leur nécessité d'être chantées. Puis, bon, d'abord, je trouve ça intéressant qu'il parle de réception en tant que chant, en tant qu'écoute, donc en se plaçant lui-même dans une posture de récepteur. Mais tout de suite après, il cite l'ouverture de l'Odyssée avec l'invocation à la muse. Puis, on pourrait traduire sa traduction anglaise que Dylan cite par « Chante en moi, ô muse, par moi raconte l'histoire ». Alors, on retrouve ici même l'aveu d'une posture qui s'apparente à un imaginaire presque de possession. Le chanteur lui-même serait dans un processus d'enchantement. Est-ce que vous voyez cette forme d'enchantement qui serait non pas dans la réception musicale, mais dans une forme de passage chez le chanteur dans le processus d'écriture?
Je ne sais pas si c'est dans le processus d'écriture. Il est interviewé, je me rappelle, c'est dans une émission qui a pour titre 60 Minutes. Et puis, je ne me souviens pas du nom de l'intervieweur qui est maintenant décédé, qui lui dit « Comment vous avez composé ces choses-là? » Et Dylan lui dit que ces chansons-là, It's All Right, mais les chansons des trois albums, Bring It All Back Home, I Was 61, Blonde and Blonde, il lui dit « Elle me venait. En quelque sorte, ces chansons m'étaient imposées parce que je les recevais. Évidemment, Dylan est aussi un grand fabulateur, hein, et c'est un manipulateur de première. Donc, je veux dire, si on réussit dans cette carrière-là comme ça, si longtemps, c'est parce qu'on sait aussi défendre, je veux dire, son image de marque. On peut appeler ça sa persona, mais on peut appeler ça son branding. Et c'est un maître manipulateur. Hein, c'est vraiment un jokerman. Alors, Bon, dire cela que ça nous vient, bon, il dit je peux plus composer de cette manière. Oui, peut-être, bon, puis c'est un peu un imaginaire imbaldien. Donc, moi, j'ai beaucoup de réserves à l'égard de ce discours, mais le discours du Nobel, il est intéressant, mais en même temps, beaucoup n'ont pas critiqué, mais ont dit, bon, évidemment, la posture d'Ellen Nobelisée, certains l'ont mise en cause. Ça, c'est un autre débat. Mais que justement son discours du Nobel était composé, dans le fond, de lectures plus ou moins plagiées qu'il avait constituées en lisant des readers sur tel roman. D'autres termes, que c'était un pied de nez poli, mais qui n'avait pas finalement travaillé très très fort. Moi, je pense que cette dimension de la possession, elle vient du blues. Elle vient du blues. On peut penser à Robert Johnson, on peut penser à ses pactes avec le diable, tel que représenté dans l'imaginaire du blues. Et c'est le blues, à mon sens, qui est un fondement très important de la musique de Dylan. C'est là où se joue la possession. Et la possession, justement, elle ne peut plus dans le blues se jouer dans l'enchantement. Elle se joue dans la cruauté de l'esclavagisme, dans les séquelles de l'esclavagisme, dans la discrimination. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais c'est la lutte pour les droits civiques, c'est de l'une du début des années 60, fortement investi réellement avec Suze Rotolo qui commence à lire Brecht, en fait, qui se fait une éducation politique avec sa partenaire de l'époque qui a 19 ans et puis dont les parents sont membres du Parti communiste. Donc, à mon avis, c'est beaucoup plus dans le blues, vraiment dans les racines du blues, que se joue cette dimension de la possession et voire de la défiguration de l'enchantement. C'est-à-dire que, vous le mentionniez encore, bah, évidemment, ces voix absolument belles de la chanson folk, des lunes, va évidemment, comment dire, casser le jeu de porcelaine, de tasse de porcelaine. Et il va le faire avec le festival de Newport, il va le faire toute sa vie finalement. Mais en même temps, à chaque fois qu'il le fait, il renoue avec une dimension, on parlait de James Bond dans un autre geste, mais quand même discordante, grinçante, disgracieuse, fascinante par ailleurs, d'une improvisation calculée aussi avec le sens du risque, le danger du risque dans la performance live, qui fait en sorte que moi j'y vois vraiment Lightning Hopkins, je vois, comment dire, John Lee Hooker, Blind Eamon Jefferson, en fait, qui ont été ses modèles, plus que l'influence littéraire au sens, je dirais, plus canonique du terme. Je pense que c'est un chanteur avant tout, et que de chanter, en soi, c'est un métier, c'est quelque chose d'assez unique.
Et en cela, je le trouve très différent de Leonard Cohen, si je peux me permettre. Et justement, Cohen est vraiment pour moi un poète qui va vers la musique, alors que Dylan est vraiment un musicien qui a assimilé plus la littérature. Oui. Si je peux m'exprimer ainsi, là, on pourrait le formuler de différentes façons, mais je trouve que c'est vraiment une des grandes différences avec Leonard Cohen à l'époque.
Ah oui, tout à fait. Il y a une remarque, je ne me souviens pas de quelle source, mais lorsqu'il se retrouve présent lors de l'enregistrement, je crois, de Slow Train Coming, en tout cas, un des premiers albums, disons, à dimension évangélique, et il dit à Jerry Wexler, qui est son producteur à l'époque, il dit « J'ai été l'homme des mots, maintenant je vais faire de la musique ». C'est ça. Et je vais être l'homme qui fait de la musique. Et je crois que c'est ça Dylan aussi. Il a toujours fait de la musique, mais le fait de perfectionner son art, comme un artisan le fait, sur des décennies de 80, 90, 100 concerts par année, je veux dire, faut voir à quel point il faut être littéralement envoûté par le fait de travailler sur scène.
Ah oui, et si je peux me permettre, le catalogue de Dylan est pour moi le catalogue le plus impressionnant au 20e siècle. On a beau chercher chez des musiciens un catalogue aussi fourni, là, je veux dire, en musique populaire, et Dylan, c'est incroyable. Et en plus, on a toutes les bootlegs de tous les enregistrements. Donc, écoutez, c'est chez les Dylanologues, là, la personne qui maîtrise tout le catalogue de Dylan, chapeau, parce que c'est vraiment, oui, pour moi, une des plus grandes œuvres.
Et si on tient compte aussi, bon, on lui souhaite la plus longue vie possible, mais de tous les enregistrements en concert sur des décennies. On travaille en ce moment en classe avec Rebecca Leclerc sur des interprétations sur 50 ans, de 62 à 2021, et puis avec des interprétations qui sont très, très différentes. Il peut y en avoir 12, 13, 14, 15 live. Donc, il va y avoir un catalogue qui va prendre une expansion considérable, parce que la dimension live, on l'a par les bootlegs, c'est un fait, mais ça va ressortir, et puis, comment dire, il va... C'est, effectivement, à mon avis, c'est un catalogue absolument impressionnant.
Intéressant aussi quand on parlait du catalogue de Dylan, puis aussi dans la dimension absolument impressionnante de son Never Ending Tour, qui là revient paradoxalement à la tradition du folk, puis à ce que Alan Lomax, par exemple, pouvait dire sur la préséance de l'interprétation live, sur le fait d'enregistrer, comme si le fait d'enregistrer spécifiquement la chanson folk lui faisait perdre une forme d'authenticité, puis que le véritable folk se faisait dans le passage de corps en corps, puis d'impossibilité de trouver une espèce d'interprétation socle. Puis là aussi, il y a peut-être quelque chose de l'enchantement dans cette préséance d'un partage qui se fait en présence de corps et non en présence de dispositifs.
De chanter en commun, hein, c'est la façon dont Dylan travaille en studio. Hein. Encore une fois, il y a toutes sortes de commentaires de musiciens qui ont travaillé avec lui qui disent, bon voilà, en studio, c'est pas un homme facile, il est pas très patient avec les ingénieurs du son, il faut que les choses aillent assez rondement, et en même temps, il veut travailler avec les musiciens qui sont tout autour de lui. Donc après ça, comment on place, moi c'est pas mon métier, mais comment on place les micros, de quelle manière on enregistre, le refus justement de toute forme de retouche, encore que, oui, mais le moins possible, le refus de porter des écouteurs, hein, ça c'est chez Dylan, c'est assez caractéristique. Donc après ça, c'est un problème quand même réel, là, c'est-à-dire comment on fait pour travailler en studio. Et il y a ce souci de je crois, qui provient de son héritage premier, c'est-à-dire la chanson est un fait public. Donc, et ça relève aussi d'une définition. Et là, Guthrie revient, à mon avis. Puis ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu que ce qu'il ne veut pas appeler, parce qu'il ne l'a même pas visité, mais le musée, qui n'est pas vraiment un musée, mais le musée Dylan à Tulsa, en Oklahoma, que tout à côté de son musée, il y a le musée Guthrie. Ça, c'est quand même aussi, c'est-à-dire, on parle, bon, évidemment, d'une influence majeure, Guthrie. On parle de Dylan, qui finalement... Bon, on va faire ce concert hommage en 67, si je me souviens bien, avec The Band. Il va intervenir parce qu'il revient après sa retraite de 66 et son accident de moto. Sa première apparition, c'est lors de ce concert hommage à Guthrie. Mais finalement, ça demeure une référence un peu secrète par la suite. Et là, bon, au moment du leg, Guthrie revient, je dirais, dans l'espace même de la ville, dans un musée. Et le troisième musée, c'est un musée des Premières Nations. Pour moi, dans des temps difficiles, ça en dit quand même long sur quelque chose qui relève, je dirais, de cette dimension de la musique populaire, mais aussi d'une musique populaire enracinée dans l'histoire américaine, mais dans la lutte aussi pour les droits civiques, qui n'est absolument pas gagné, et puis qui est même à l'avant-plan plus que jamais.
Merci Simon, merci Danick de nous avoir accompagnés dans l'épisode d'aujourd'hui. Aux auditeurs et auditrices, je vous conseille de consulter la page Facebook du LRSM si vous souhaitez suivre les prochains épisodes du balado. Vous pouvez aussi nous retrouver sur toutes les plateformes habituelles, ainsi que sur le site web du département de littérature et de langue du monde. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.